Jésus vint. Il n'a pas encore été présenté, hein. Mais nous savons quand même déjà qui il est. Nous sommes des chrétiens, comme on disait tout à l'heure. Jésus vint de Nazareth de la Galilée, ça c'est bien terrestre, et fut plongé, à lui aussi, dans le Jourdain par Jean. Plongé en quelque sorte dans l'Esprit Saint, dès le départ. Comme Obélix qui était tombé dans la potion magique quand il était jeune. Et aussitôt, et voilà, nous sommes partis. Et aussitôt, ça commence à presser. Parce que l'Esprit Saint est présent. Et aussitôt, en montant de l'eau, il vit les cieux se déchirant, et l'Esprit comme une colombe descendant vers lui. Pour nous dire que Jésus est venu mettre sur notre terre l'Esprit de Dieu, la force de Dieu, le dynamisme divin. Il vit et une voix. Voir et entendre et donc aussi parler, c'est la fonction du prophète. Voir, donc regarder les choses comme elles sont de l'intérieur, et en même temps entendre une parole qui nous les explique. Et une voix arriva des cieux, toi, toi. Tu es mon fils, le bien-aimé. En toi, je me suis complu. C'est adressé à qui cette parole chez Saint-Marc? À toi. À toi. À toi, Jésus. À toi, Jésus d'aujourd'hui. Mon fils, ma fille. Dans le psaume 2, une citation du psaume 2, c'était le roi d'Israël, le Messie. Tu es mon fils, le bien-aimé. Ah, c'était Isaac, le bien-aimé. Tu es ce bien-aimé. En toi, je me suis complu. C'est qui? En qui Dieu se complaît? Mais c'est Isaïe 42, c'est-à-dire le serviteur. Et voilà comment le lecteur, nous, nous sommes entrés dans l'Évangile. Je me découvre le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu, son fils, sa fille, objet de son amour. Une unique aimée de Dieu. Et ce n'est plus simple confession de péché, c'est être gratuitement plongé dans l'Esprit Saint. Étonnant. Bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Et aussitôt, ça recommence. Et aussitôt, l'Esprit le chasse vers le désert. Nous étions dans le désert, nous revenons au désert, le désert de nos vies. C'est souvent vide, c'est parfois ennuyeux, parfois dur, parfois insupportable. Et cela demeure vide, ennuyeux, insupportable, avec l'Esprit, et aussitôt l'Esprit le chasse vers le désert, pour que nos déserts soient habités par cet Esprit. Et ils se trouvaient dans le désert 40 jours, mis à l'épreuve par le Satan. Le mot Satan, en hébreu, signifie obstacle. Il y a toujours des obstacles, hein. Ne fût-ce que nos limites, ne fût-ce que nos impuissances, ne fût-ce que notre âge, nos maladies. Le Satan fait partout, hein. C'est jamais absolument tout lisse, là. Non. Il y a toujours des aspérités. Le Satan. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le retrouver, celui-là. Le Satan, nous pourrions dire, l'obstacle. Et vous voulez une image du Satan? Ben, il se trouve avec les bêtes féroces. Les bêtes féroces, ça signifie la menace. Tout ce qui est menaçant dans nos vies. Hein, nos rêves, nos cauchemars, bah, ça peut être rempli de bêtes féroces. Maintenant, il y a des bêtes féroces modernes, hein, des canons, des tanks, etc. Ils font aussi des bêtes féroces. Et les anges le servaient. Voilà que nous retrouvons un messager. Vous avez un messager au début. Eh bien, nous trouvons des messagers maintenant au pluriel. Et les anges le servaient. Ça dit la vie de Jésus. Ça dit la nôtre. Un plongeon dans l'eau, c'est ce que nous avons fait dans le jour de notre baptême. Que nous ayons encore un souvenir ou pas. Plongeons. Et puis on est replongé dans l'Esprit Saint. Plongé dans l'eau, plongé l'Esprit Saint. Et on se trouve mis à l'épreuve par le Satan, par tous les obstacles de notre vie, et avec des anges qui nous servent. Voilà, c'est toute notre existence qui est exprimée dans celle de Jésus. Prophétiquement, c'est-à-dire comme en avant. Et donc, il ne faudra pas oublier cette première page, parce que cette première page est un prologue. C'est-à-dire, ils nous disent ce qui va se passer. Donc il faudra nous attendre à trouver des bêtes sauvages et à trouver des anges qui servent. Il y en a déjà un, d'ailleurs, qui vient de nous préparer sur un chariot un peu de boisson. On m'entend toujours ? Bon. Nous avons vu jusqu'ici le prologue. Donc c'est une annonce, et vous voyez bien le but de cette annonce, c'est de mettre le lecteur dans le coup. Le coup, c'est l'évangile. Le coup, donc, c'est la présence de Jésus vivant. Alors, pourquoi nous raconte-t-on l'histoire d'autrefois? Mais simplement parce que cette histoire de Jésus parmi nous, c'est la nôtre en lui. Et donc, il va falloir, au fur et à mesure que nous avançons, il va falloir nous retrouver dans cet évangile et essayer de le rendre vivant dans notre existence en nous posant des questions. Qu'est-ce que je suis? Comment suis-je à ses yeux? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Qu'est-ce qu'il me donne de faire pour lui? Et pour découvrir comment la relation qui se noue avec Jésus s'approfondit, même si, au fur et à mesure de notre vie, nous devenons plus fatigués, plus las, nous avons des maladies, des limites que nous ressentons davantage. Tout cela n'empêche pas sa présence. Mais ce qui diminue parfois, quand nous vieillissons surtout, c'est notre conscience de sa présence. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important. Tout ne doit pas être mesuré à nous, mais nous devons nous mesurer, nous laisser mesurer par lui. Et donc l'Évangile nous invite à faire ce chemin inverse. Nous nous replions, le mouvement naturel, et nous replions tout, les autres, etc., sur nous-mêmes et nos sentiments et nos problèmes et nos difficultés. C'est bien, ça fait partie du réel. Mais ce qui fait surtout partie du réel, c'est nous plonger en lui, Nous venons de faire un plongeon, ben essayons de vivre ce plongeon. Notre baptême, c'est aujourd'hui. Commencement de la bonne nouvelle. C'est notre baptême en lui. C'est lui qui nous baptise dans l'Esprit Saint. Y croyons-nous. Bon, maintenant nous allons voir Jésus baptisé en nous, Jésus plongé dans notre réalité humaine. Et vous connaissez ces icônes du baptême de Jésus. Hein, deux falaises, à droite et à gauche du Jourdain. C'est pas la réalité géographique, mais c'est comme ça dans l'icône. Donc deux falaises, c'est-à-dire deux rochers. Nous sommes comme murés entre deux rochers. Nous avons nos limites, à droite et à gauche. Et vous avez sur une rive Jean-Baptiste, et sur l'autre rive, vous avez des anges qui sont prêts à servir. Parfois, sur les icônes, vous avez du peuple qui vient se faire baptiser. Et Jésus fait la file au confessionnal de Jean-Baptiste, parmi le peuple. Et puis vous avez soit le doigt de Dieu, ou le rayon, tout simplement venant du ciel, un mini-ciel, et la colombe, l'Esprit Saint, sur Jésus. Jésus est dans l'eau, il est dans l'eau tout nu comme nous, sans défense. Et vous voyez, à la parole du Père, invisible, mais qui est présente dans le tressaillement de l'icône, vous avez donc Jésus qui est là, le Fils bien-aimé, et sortant de l'eau, vous voyez des petits démons, à droite et à gauche, partout. C'est Jésus qui est plongé dans notre existence humaine, et qui fait fuir les petits démons qui sont en nous, qui doivent bien lui céder la place, parce que normalement, il prend toute la place. Et l'évangile, la bonne nouvelle, c'est de lui laisser prendre la place. Il ne la prendra pas sans nous, si nous ne lui cédons pas. Et donc il faut exposer nos petits démons, nos peurs, nos menaces, nos inquiétudes, nos refus. Il faut les laisser exposer à son plongeon. Il doit pouvoir plonger en tout cela. Et nous avons dans l'évangile de Marc six grandes étapes. La première qui va du chapitre 1er verset 14, hein, où nous sommes arrivés, jusqu'au chapitre 3 verset 6. Ça c'est clair et vous verrez d'ailleurs comment on peut les diviser. C'est Saint-Marc qui nous dit qu'il faut diviser son évangile de cette manière-là. Et puis nous avons une deuxième qui va de 3.7 à 6.6. Deuxième partie, nous verrons aussi comment on la divise. Et puis nous avons une troisième qui va de 6.6, parce que le verset 6 est un peu mitoyen, qui va de 6.6. Et qui se termine, elle est un peu plus longue, et qui se termine à la fin du chapitre 7, verset 37. Mais que l'on peut terminer également en 8:30, qui fait le milieu de l'évangile. 8:30. Voilà. Et donc tout cela, c'est la première partie de l'évangile, et qui aboutit à la présentation générale de Jésus, qui est Jésus, j'allais dire pour moi, et je m'arrête, parce qu'il vaut mieux dire qui est Jésus en moi. Quel est le Jésus que je deviens en lui? Donc, les feux sont dirigés vers la personne de Jésus. Et chacune de ces trois parties, nous le verrons au fur et à mesure, commence par un petit résumé. Un verset, deux ou trois versets, hein, un petit résumé. Et ce sont ces petits résumés qui nous disent, voilà, une étape est terminée, commence une autre. Or, voilà comment se fait ce petit résumé, le premier. Après que Jean eut été livré, on a vu Jean, on l'a vu baptisant, on l'a vu cédant la place à Jésus, ah ben, Jean a été livré. Jean est mort. C'est notre lot. Nous avons à céder la place à Jésus. Après que Jean eut été livré, ah oui, mais être livré, c'est être livré pour mourir de mort violente. Mais ça arrive aussi. Ça arrive surtout aux témoins. Et le mot témoin, en grec, se dit martyr. Jésus vint vers la Galilée. On dirait qu'il va trouver un endroit calme, qui n'est pas aussi agité que Jérusalem, un endroit calme où il va pouvoir exister simplement. Vous remarquerez que saint Marc ne nous dit absolument rien de la naissance ni de l'adolescence de Jésus. Non, on le découvre tout de suite à l'âge adulte. Il vint vers la Galilée en proclamant la bonne nouvelle, tiens, nous la trouvons, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Il est, lui, la bonne nouvelle de Dieu. Est-ce que Dieu est bonne nouvelle pour nous? Nous trouvons souvent dans la Bible que l'on parle de nouveauté, un chant nouveau, une alliance nouvelle, ça ne vient qu'une fois. Cette nouveauté, c'est pas quelque chose de plus nouveau qu'hier, c'est pas demain plus nouveau qu'aujourd'hui, non. Cette nouveauté dans la Bible, c'est toujours la présence de Dieu, c'est lui qui est toujours nouveau. Il nous déroute toujours. C'est un peu comme si, rentrant dans votre chambre, au lieu de trouver votre armoire à gauche, voilà tout d'un coup qu'elle est à droite. Et au lieu de trouver votre lit au milieu, voilà qu'il se trouve au plafond. C'est ça la nouveauté. C'est, on ne peut jamais avoir de ce qu'on appelle aujourd'hui les sécurités. Sécurité, ça c'est le terme indispensable. Qu'est-ce que c'est qu'une sécurité? C'est toujours quelque chose qui me sécurise. Et toujours centré sur moi. Mais la sécurité, c'est d'exister pour quelqu'un. C'est ça, la véritable sécurité. L'assurance d'être aimé. Ben, avec ça, ben, on n'a pas d'argent de la banque. Hein. Mais enfin, on est aimé. Il faut savoir pourquoi on opte. Si c'est pour la bonne nouvelle, ça c'est la nouveauté là-bas. C'est que c'est Dieu qui me tient. La bonne nouvelle de Dieu. Voilà ce que Jésus annonce. Il est annonce de bonne nouvelle. En disant, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Et nous allons être frustrés. Il est accompli le moment et il s'est approché le royaume de Dieu. Convertissez-vous, hein, nous savons ce que c'est maintenant, convertissez-vous, et ayez foi en la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? C'est moi, toi, la bonne nouvelle. C'est moi qui viens en toi. C'est le résumé des 13 versets que nous avons vus tout à l'heure. Convertis-toi, retourne-toi vers moi, au lieu de te tourner vers toi. Au lieu de tout mesurer à ton envie, à ton désir, mais reçois-moi, moi je te désire, c'est encore bien plus important. Voilà la bonne nouvelle. Je viens te rencontrer là où tu es. Et en cheminant, le long de la mer de Galilée, la mer, pour un juif, c'est pas extraordinaire. Hein? La mer, c'est l'endroit où il y a des puissances mauvaises. Eh bien, il chemine le long. Il chemine le long de ma mer, de mes puissances mauvaises, de Galilée. Galilée, nation, hein, c'est ouverture. C'est pas seulement la petite Judée ou Jérusalem fermée sur elle-même. La Galilée, c'est ouvert. C'est le vaste monde. Il vit. Jésus vit. Il regarde. Simon et André, le frère de Simon, deux frères, jetant l'épervier dans la mer. L'épervier, hein, c'est le grand filet qui ramasse un peu de tout. Car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, venez derrière moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et j'ai trouvé sur mon bureau un petit dessin d'enfant avec Jésus qui est en train de pêcher. Un homme qui est pris par l'hameçon, hein, pêcheur d'hommes. C'est très gentil. Je tends l'épervier dans la mer car j'étais pêcheur. L'épervier, lui, le petit enfant, il connaît la pêche à la ligne. Hein, c'est déjà pas mal. Venez derrière moi, je vous ferai devenir pêcheur d'hommes. Pêcheurs, ben ils sont pêcheurs, on vient de le dire. Ils étaient pêcheurs, ben je vais vous faire devenir pêcheurs. Ah oui. Donc, il y a une cohérence avec ce qu'on est. Jésus nous rencontre là où nous sommes, nous. Mais avec un petit exposant, une petite différence. Pas pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hommes, nous venons de voir qu'ils sont des pêcheurs. Pêcheurs de pêcheurs. Pêcher, c'est-à-dire être ouvert à l'autre. Pouvoir découvrir que l'autre, comme un poisson, va pouvoir me nourrir. Que je vais me recevoir de l'autre. Et plus je rencontrerai d'autres, plus je recevrai des choses de moi. Qui sont moi. Chaque rencontre nous transforme. C'est-à-dire, chaque rencontre fait surgir en moi des choses qui étaient en sommeil et qui peuvent s'éveiller. Et aussitôt, vous voyez, ça continue, hein. Il y avait déjà deux aussitôt, voilà le troisième. Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivaient. Nous sommes à l'état de suivre Jésus. Suivre Jésus qui m'a rejoint. Nous avons déjà lu Saint-Luc, donc nous connaissons Emmaüs. Eh bien, voilà, Jésus m'a rejoint dans mon existence, là où je suis pêcheur. Et il me fait devenir présence de lui à ses pêcheurs, les autres, mes frères. Et progressant un peu, il vit... Être regardé, être vu par Jésus, c'est étonnant. Être identifié par Dieu, dans la masse là, c'est difficile déjà pour nous, hein, quand il y a 200-300 personnes, hein, de découvrir quelqu'un. Pour Dieu, ça ne semble pas difficile. Il vit Jacques, le frère de Zébédée, et Jean, son frère. Bien. Pourquoi il commence par des frères? Vous pourriez voir sœurs aussi, hein, si c'était des pêcheurs ou féminins. Oui, nous verrons d'ailleurs qu'il y en a. Mais parce qu'en Jésus, on devient frère de toute manière. Nous sommes des frères et des sœurs. Eux aussi dans la barque, arrangeant les filets. Là, ils laissaient les filets, ici, ils arrangent leurs filets. Et aussitôt, vous voyez, les aussitôt qui reviennent, hein, ils les appelent. Tiens, tout à l'heure, c'était, et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et maintenant, c'est aussitôt, ils les appelent. Voilà que Jésus est entré dans notre temps, dans notre et aussitôt. Et laissant, tiens, on laisse. On laissait les filets. Et maintenant, on laisse le père Zébédée dans la barque avec les salariés. Bon, il a quand même de l'aide, hein. Bon. Et s'éloignèrent derrière lui. Lorsque Jésus est devenu notre unique préoccupation, toutes nos préoccupations se calment, s'apaisent. Et elles ne sont plus inquiètes. Parce que on est avec tout ce que nous sommes et nos relations et nos familles et ceux que nous aimons, on est avec lui. Bon, les difficultés restent, oui. Et ça peut être terrible parfois, causer des ruptures. Mais cela a changé de sens. Parce que c'est avec eux tous que nous venons vers lui. C'est comme ça qu'on devient pécheur d'homme, en le suivant. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait lui-même. Bon, il pêche. Il pêche Simon et André d'un côté, il pêche Jacques et Jean de l'autre. Mais vous remarquez quelque chose. C'est que chez Marc, dès que Jésus apparaît, il n'est pas seul. Tout de suite, il y a une petite communauté de frères. Tout de suite. Mais ça, ça fait partie du message de Marc. Jésus et communauté, ça ne fait qu'un. Et c'est lui qui va nous donner nos frères, nos compagnons. C'est lui qui les donne. Bon, il est possible que nous nous rencontrons dans la vie, mais c'est lui qui nous met les uns dans les bras des autres. Voilà donc le sommaire qui est suivi d'un appel, un double appel, ou un quadruple appel, appelons-le comme ça. Hein? Petit résumé, et puis un appel. Maintenant, une journée du pape, une journée du premier ministre, une journée du call de notre équipe, des Diables Rouges, une journée de Jésus. On voit très bien ce que ça veut dire, hein. C'est un genre littéraire. Ça ne vous dit pas exactement tout ce que Jésus a fait. On a pris un certain nombre de flashs significatifs. Et à partir de ces flashs significatifs, vous allez percevoir comment Jésus existe pour vous. Il pénètre à Capharnaüm. Capharnaüm, maintenant, c'est devenu un chaos. Des pierres un peu partout. Oui, mais notre Capharnaüm, là où nous vivons toutes sortes de choses, sans beaucoup de suite. Et aussitôt, bizarre, hein, c'est aussitôt. Mais comme il se répète tellement, dans beaucoup de nos traductions, on a laissé tomber ce et aussitôt. C'est dommage. Parce que c'est ce « et aussitôt » qui donne le rythme. Et aussitôt, le jour du Shabbat, étant entré dans la synagogue, il enseignait. On se trouve tout de suite dans la synagogue. La synagogue, comme le terme le dit, c'est une agogé, c'est là où l'on se rassemble. C'est le lieu de rassemblement. C'est pas d'abord le lieu de la prière, hein. C'est le lieu du rassemblement pour l'étude. C'est la maison du peuple, la synagogue. Il enseignait, et on était saisi de surprise à propos de son enseignement. Car il se trouvait, les enseignants, comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Vous avez remarqué que nous sommes tout à fait frustrés, hein? Nous aimerions bien savoir, ben, donne-nous un peu de son enseignement, hein? Qu'on apprenne quelque chose. Pas de contenu. Bizarre, hein? Il enseigne, mais il enseigne pas comme les scribes. Et comment un scribe enseigne-t-il? Ah, un scribe, c'est celui qui sait. Qui sait lire, qui sait lire la parole de Dieu, et qui se réclame de son maître. Shaoul était disciple de Gamaliel. Eh bien, je dis, hein, d'après mon maître qui enseignait, d'après son maître qui enseignait, d'après son maître, je m'adosse à un maître, à quelqu'un qui sait. Jésus ne sait rien d'autre que lui-même. Il est. L'enseignement de Jésus, c'est lui. C'est sa personne. Le scribe a besoin de s'appuyer sur un autre. Jésus, non. Il ne s'appuie pas. Il est un appui. Mais il ne s'appuie même pas sur Dieu, parce que Dieu vit en lui. Non pas comme les scribes. Maintenant, autorité, ce mot-là, pour nous, ça fait problème. Parce qu'une autorité, c'est quelqu'un qui nous domine, qui a un pouvoir, en quelque sorte. Tandis que le mot autorité, exousia, en grec, c'est ce qui sort de la personne. C'est la personne elle-même. C'est ça l'autorité. C'est ce moteur que la personne est. Et aussitôt, quand Jésus enseigne, quand Jésus est présent dans chacune de nos vies, aussitôt, l'obstacle apparaît. Nous avions vu le Satan, eh bien, il y a de l'obstacle. Partout, même dans la synagogue, même dans l'église, même dans notre sanctuaire intérieur, il y a des choses qui font obstacle, qui refusent. Et aussitôt se trouvait dans la synagogue un homme en esprit impur. Ce qui n'est pas pur, ce qui est impur, c'est ce qui est divisé. Et dans le monde juif, surtout de l'époque, on avait peur de ce qui n'était pas pur. On avait peur de tout ce qui n'était pas juif, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas uni à Dieu, comme le peuple juif. Et donc on se protégeait contre toute espèce d'épidémie extérieure. Ce n'est pas de la maladie à proprement parler, mais des contacts. On se protégeait contre les contacts avec les étrangers, avec des gens qui ne pensaient pas comme nous, avec des gens qui n'avaient pas la même religion, qui étaient différents. Je vous recommande un petit livre qui est une petite merveille pour bien découvrir ce qu'était le milieu juif dans lequel Jésus est né, dans lequel il a vécu. C'est ce petit livre de Carlos Mesters. Carlos Mesters, c'est un Belge qui est missionnaire, qui est carme, et qui est missionnaire au Brésil depuis très longtemps, et qui est en rapport constant avec les communautés de base au Brésil. Donc il a écrit en portugais et ce petit livre a été traduit. La traduction, le titre de la traduction, c'est « Avec Jésus à contre-courant ». Et il nous dépeint, comme sait le faire quelqu'un qui vit en Amérique latine, il nous dépeint quel était justement ce monde dans lequel Jésus est né, dans lequel il a vécu. Et c'est basé presque uniquement sur les évangiles, en prenant des passages d'un côté et d'autre, mais les évangiles regardés à travers des sources juives de l'époque. Avec Jésus à contre-courant, Carlos Mester donc c'est avec Jésus à contre-courant et ça a paru en 2000 aux éditions de Lumenvité à Bruxelles. Lumenvité 2000. Donc la traduction. Dans la collection Connaître la Bible, numéro 16 et 17. Justement, ça vaut la peine, surtout pour les catéchistes, pour décrire un peu ce milieu dans lequel Jésus vivait. Pour vous figurer un peu ce que c'est, eh bien, figurez-vous le milieu dans lequel Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu. Et son milieu familial, et le milieu de son éducation, était un milieu tout à fait janséniste, très pointilliste, hein, très à cheval sur toutes les ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. Très moralisant. Et le milieu du Carmel, dans lequel elle est entrée aussi, et ses sœurs avaient bu le même lait. Et là, au milieu de cette atmosphère pesante, lourde, moralisante du jansénisme, vous avez une fleur. Thérèse de l'Enfant Jésus était tout le contraire. Elle avait découvert la liberté de la bonne nouvelle. Eh bien, c'est un peu quelque chose du même type que vous voyez. Jésus, dans un milieu très pharisien, très collémonté, qui se trouvait comme ça en pleine liberté. C'est cela. Quand vous rencontrez une personne libre, simple, libre, qui ose dire ce qu'elle pense et vivre, essayer de vivre comme elle vit, ça fait impression. Et alors tout d'un coup, vous ressentez en vous vos manques. Ah, moi je ne suis pas comme. Hein? Vous avez eu cette impression-là un certain nombre de fois. Je ne suis pas comme. Je ne connais pas tout ce que ce type connaît. Je n'ai pas fait tout ce qu'il avait fait. Je suis rien. Ça, c'est le Satan qui arrive. Il est présent. Et quand il entend la liberté, il rend esclave. Eh bien, c'est ce qui se passe. Au milieu de la synagogue, il y a un gars qui est mélangé, comme nous le sommes tous, un homme en esprit impur. Et il s'écria en disant, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es, toi, le Saint de Dieu. » Ne nous y trompons pas. Je sais qui tu es. Mais tu me fais mal d'être ce que tu es. Ça me pose des questions. Et Jésus le raboie en disant, allez, sois muselé, tais-toi, t'as rien à dire. Et sors de lui. Il y a quelqu'un qui empêche cet homme d'être libre. Oui, et c'est une expression de ce refus. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Au fond, c'est ce que nous ressentons tous. Nous désirons la bonté de cet homme, nous désirons la sainteté de cet homme, et nous nous rendons compte de tout ce qui s'y oppose en nous. Et nous bloquons. C'est le blocage. Ce que nous appelons un blocage psychologique, religieux, tout ce que vous voulez. Je sais qui tu es, toi, le Saint de Dieu. Eh bien, le Saint de Dieu te purifie. Est-ce que tu te laisses purifier? Et Jésus le rabroie en disant, sois muselé et sors de lui. Et l'esprit impur le contractant et vociférant d'une grande voix, on parle beaucoup de voix, hein, on l'a déjà entendu dans le désert, allez voir, elle va revenir jusqu'à la fin, la voix. Et vociférant d'une grande voix, sortit de lui. Crachez toute la bile qui est en vous. Crachez tout ce mal. Vociférez. Mais donnez-lui congé. Donnez congé à votre mauvais moi. Vous verrez ce que ça change. Mais vociférez, c'est d'abord le vociférer au Seigneur. Pas raconter le mal de tout le monde, à droite, à gauche, ça n'édifie rien du tout. Mais le lâcher en lui, le plonger en lui. Et l'esprit impur, le contractant et vociférant d'une grande voix, sortit de lui. Et tous furent stupéfaits. De sorte qu'ils discutaient entre eux, en disant, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce qui se passe hein? Un enseignement nouveau donné d'autorité, il ordonne même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Drôle d'enseignement, hein? Jésus qui nous dit, mais laisse-moi prendre la place. Et alors, tout ton mal, tous tes mauvais esprits, tout ça, ça va disparaître. Et tu vas t'apaiser. C'est ce qui se passe. Et ça se passe au milieu du peuple, de la communauté rassemblée au nom de Dieu. L'enseignement d'autorité. C'est Jésus qui est libre au milieu d'une communauté qui est coincée. Mais oser être libre d'une grande liberté intérieure, d'une liberté qui est suivre Jésus, nous l'avons vu, au milieu d'une communauté coincée ou dure, c'est pas évident, hein? Pas évident. Hein? Et dans une communauté religieuse, et dans une famille, et dans une paroisse, hein, etc., etc., et dans toutes nos sociétés. Ce n'est pas évident du tout. Regardez la petite Thérèse. Elle était dans une communauté coinçante, et la preuve, c'est que ses sœurs l'étaient coincées, et elle non. Et pourtant, elle subit les tracas de l'une, de l'autre, le doucettement, etc., les tics d'une chacune. Elle subit tout cela dans la joie. Bizarre, hein? Bizarre. Mais si elle a reçu ça, c'est pas pour elle. C'est pour nous. Elle passe son ciel à faire du bien sur la terre. Et la rumeur à son sujet sortit aussitôt dans le pays d'alentour entier de la Galilée. Dès que vous avez un homme, une femme libre quelque part, ça attire. Du moment que cet homme ou cette femme ne coince pas les autres, n'éclabousse pas, n'impose pas, ça attire. Et aussitôt, ça marche, hein? Et aussitôt, sortant de la synagogue, Il vint dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Et si vous voyez encore dans les ruines de Capharnaüm aujourd'hui, hein, la synagogue qui n'est plus celle de l'époque de Jésus, mais qui a été construite sur l'emplacement de l'ancienne, vous sortez de la synagogue et vous arrivez dans la maison de Pierre. 50 mètres, même pas. Il vint dans la maison de Simon et d'André, les deux premiers qui avaient été invités, avec Jacques et Jean. Vous voyez la petite communauté qui est déjà formée. Oh, oh, la belle-mère de Simon était couchée, fiévreuse. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. Tu sais, grand-mère, ça va pas, hein. Belle-mère, grand-mère, ça va pas. Et aussitôt, on lui parle à son sujet. C'est tout simple. Il est l'ami à qui on confie les difficultés. Et s'avançant, il la réveilla. Lui saisissant la main, et la fièvre la laissa. Et elle les servait. On lisait cela avec des enfants de 12 ans qui se préparaient à leur profession de foi. Et il y a une petite fille qui dit « Est-ce que c'est pas le premier ange ?» Il avait bien lu, hein, les anges le servaient. Et voilà la belle-mère qui les sert. Est-ce que c'est pas le premier ange ? Elle avait découvert. C'est ça, raconter l'évangile d'une certaine manière. La fièvre la laissa, elle les servait. Et voilà qu'avait assez, comme une petite communauté qui était quatre hommes, voilà qu'une femme vient s'adjoindre. Parce que Jésus l'a restauré dans sa liberté. La fièvre l'empêchait d'être libre. La fièvre, ça terrasse. On n'est plus capable de rien. Aller jusqu'à 39-40,